Je voudrais vous dire un mot au sujet du prophète Élie. Vous avez entendu dans les textes liturgiques ce matin et hier soir combien on exalte son zèle, le zèle qu'il avait pour Dieu. Et c'est à juste titre. Il avait un tel zèle pour Dieu qu'il faisait d'une manière tout à fait naturelle des miracles. Il était capable, par la grâce de Dieu, de faire venir la sécheresse sur un pays. Ah non, c'est pas lui qui agit au-dessus de chez nous. Hein. Ou de faire tomber la pluie quand le peuple commençait à se repentir. Pour brûler des holocaustes, pour brûler des sacrifices, des sacrifices d'animaux immolés. Et pour les offrir à Dieu, comme c'était la coutume à ce moment-là, en les brûlant intégralement, il commençait à faire un canal tout autour, à asperger ça, à noyer ça dans de l'eau, dans des jarres d'eau. Et le feu du ciel venait et consumait, brûlait les sacrifices malgré l'eau. Tout ça, c'est des images aussi. De la croix, du baptême, de tous nos thèmes, de ce que le christianisme, après, a vu comme figure et a exprimé à travers ces symboles. Donc, nous ne pouvons que prendre modèle, prendre comme exemple, le prophète Élie pour son zèle pour Dieu. Je prie Dieu pour qu'il nous accorde à tous ce zèle-là, à vous comme à moi. C'est un zèle qui n'implique pas forcément que nous soyons capables, nous aussi, de faire des miracles encore, que nous en fassions. Tous. Mais il importe que nous ayons le même zèle. Parce que c'est ce genre de vie-là qui peut nous amener la vie éternelle et pas simplement en une vie plus ou moins agréable, joyeuse, facile, je ne sais pas comment l'exprimer, pendant les quelques années de nos vies, 80 ans, 90, 100, 110, 120, pas beaucoup, là, puis tout ce qui arrive, il n'y a pas que des joies entre deux. Mais au-delà de cette vie d'une centaine d'années, disons, pour être optimiste, il y a cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés tous et qu'il faut vraiment, vraiment acquérir. Et si on veut l'acquérir, il faut la connaître. Il faut l'expérimenter humblement, mais il faut l'expérimenter aujourd'hui. Donc, on ne peut qu'exalter le zèle d'Élie et de le prendre en modèle. Mais, Père Élie, le prophète, il avait un sérieux problème. Il avait un sérieux problème et curieusement, les pères de l'Église en ont parlé constamment et dans nos textes liturgiques, ça passe pratiquement inaperçu. C'est-à-dire qu'il avait du zèle pour lequel il est loué. Il avait du zèle pour lui-même, il mettait tout ce qu'il pouvait comme énergie pour connaître Dieu, l'éprouver. Mais il avait le même zèle intempestif pour les autres. Vous voulez pas vous convertir, qui disait au peuple d'Israël, eh bien, puisque c'est ça, pendant plusieurs années, vous aurez de la sécheresse, vous allez en mourir. C'était une manière de solliciter leur conversion, de manière un peu brutal et un peu douloureuse. À la fin de sa vie, il rassemble de 256, je crois, prêtres d'idoles, et il a tous passé par les armes. Comme ça, si vous voulez pas vous convertir, de toute manière, vous irez de patresse. Tout ça, c'est une manière de raconter les choses aussi. C'est pas une exaltation, évidemment, du meurtre et tout ça. C'est pas ça qui est montré par la Bible. Simplement, ce qui est montré par les Saintes Écritures, c'est que son zèle était tellement intempestif que ça, ça ne plaisait pas à Dieu. Dieu faisait grâce à Élie à cause de son zèle personnel, de sa foi, une foi à déplacer les montagnes, fin de citation, mais son intransigeance, son manque de miséricorde pour les gens, ça ne plaisait pas à Dieu. Et ça, c'était pas béni. Et de cela, il fallait aussi qu'il se convertisse. Son zèle devait passer par une authentique conversion. Et voilà comment elle a eu lieu. Il dit au roi Akab que puisque le peuple, puisqu'il ne veut pas se convertir et avec sa femme, son horrible femme, Jézabel, oui c'est ça, puisqu'il ne veut pas se convertir, et bien pendant ce temps-là, il ne pleuvra pas sur le pays, ce sera la famine, ce sera le... Bon, lui dit le Seigneur, je le dis à ma manière, hein, mais pour essayer de, non pas de moderniser le texte, mais de vous faire comprendre. Ah, tu veux les obliger à se convertir? Eh bien, commence par toi-même. Tu vas aller d'abord sur les bords d'un torrent, là, dans une gorge, et tu vas vivre là tout seul. À la gorge, et désolé, à part les loups et évidemment, je sais que les serpents, il n'y a rien dedans. Un espèce de petit ruisseau de rien du tout, on le sait, on y est allé. Plusieurs ont vu le torrent de Kérit. Et là, grâce à son zèle, il y avait un oiseau qui venait lui apporter du pain chaque jour pour manger. Ouais, mais quel oiseau? C'était un corbeau. Et pour les Juifs, un corbeau, c'est un animal impur. Donc, que ce soit un animal impur qui vient lui amener à becter, c'était dur à avaler. Excusez-moi, il avait quand même du mal. La conversion était dure. Enfin, il a vécu comme ça pendant un certain temps, nourri. Donc, vous voyez, l'antinomie, à la fois son zèle, qui le fait être nourri par Dieu, mais en même temps, quelle humiliation être nourri par un animal impur. Et puis de là, il part sur l'ordre de Dieu, et il descend vers le mont Horeb, c'est-à-dire vers le mont Sinaï, de la descente dans la péninsule. Et en chemin, il s'arrête à Sarepta chez une veuve, Bis Repetita. Et il est le prophète. Il croit en Dieu. Il est chez lui. C'est lui qui invite les gens à se convertir. Et c'est comme ça qu'il dit à la femme, allez, donne-moi à manger, fais-moi des galettes de pain. Alors, il fait des galettes de pain, parce que les lois de l'hospitalité l'exigent. Puis il dit, ben fais-moi encore. C'était du pain d'abord, puis des galettes après. Et
de l'eau.
De l'eau, voilà. Elle dit, mais je ne peux pas t'en donner parce que. J'ai presque plus rien, mais mes réserves sont... J'ai juste ce qu'il faut pour nourrir mon fils, et après on n'a rien d'autre, on va mourir. Ça fait un donne-les-moi d'abord. C'est dur. Il était exigeant pour les autres. Et puisque la femme obéit avec elle, avec humilité, je caricature un peu dans les deux sens, hein, vous comprenez bien, bien sûr. Je ne veux pas rabaisser non plus le prophète Élie en même temps. Voyant la foi, la confiance, l'humilité de cette femme, il dit, ben, ne te tracasse pas. Puisque tu m'as donné ça, puisque tu acceptes même la mort éventuelle par famine, quand tu m'auras donné ça, que tu n'auras plus rien à manger, ne te tracasse pas, tes réserves d'huile et de farine ne s'épuiseront jamais. C'était un nouveau miracle. Le Seigneur l'attendait encore au virage. Il est reparti encore. Il est parti toujours vers l'Horeb, toujours. Et là, de nouveau, il avait à souffrir. C'est le désert. Tous ceux qui connaissent la région, le Negev, il n'y a pas un arbre, de rares sources. C'est vraiment la chaleur d'ici, c'est rien en comparaison. Et là, il est découragé. Et puis, découragé par quoi? par la fatigue du voyage probablement, mais aussi parce que ça devait travailler à l'intérieur, tout ça. C'était pas que des bonnes expériences. Et alors là, il s'endort et découragé, il dit, ben, j'ai plus qu'une chose à mourir. Seigneur, prends mon âme, j'ai plus qu'à mourir. Ce n'était pas du suicide, mais presque. Ce que nous appelons de la sédie, c'est-à-dire du découragement, de ne plus avoir envie de se battre, ne plus avoir d'avenir de devant soi, ne plus trouver de motif d'espérance, et de voir que tout est négatif. Là, le bord de la désespérance. Et là, il s'endort. Mais c'est quand même Saint Élie. Donc, il y a un ange qui vient, qui le réveille, puis il dit, tiens, je t'amène de l'eau et des pains, nourris-toi, etc. 3 jours de suite, comme ça. Je ne vous dis pas qu'on aimerait bien avoir la même chose, parce qu'on l'a. Et puis, finalement, il reprend courage, ragaillardi par cette nourriture et cette boisson. Il repart vers le rêve. Et là, il est sur les pas de... Là où Moïse a vu la transfiguration aussi, sur le point culminant, là où ciel et la terre se joignent. Et là, il n'y a plus qu'une chose à faire, il n'y a plus rien à demander à Dieu, tout est perdu, tout est... Et simplement, il rentre dans la pure contemplation, c'est-à-dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est pas dit comme ça dans les textes, mais j'extrapole, si vous voulez. Fais de moi ce que tu veux. Et là, naît véritablement la conversion dans son cœur. Le zèle, il l'a toujours. Mais ce zèle-là, il a été éprouvé par les tentations de découragement préalables, par les humiliations qu'il avait subies par les événements que je vous ai décrits préalablement. Et à ce moment-là, son attitude vis-à-vis de Dieu est une attitude plus juste. Il n'a plus de volonté personnelle, il n'a plus de volonté propre, il n'a plus il a perdu son arrogance, ses exigences vis-à-vis du monde, vis-à-vis des gens. Même arrogance d'une certaine manière légitime, parce que c'est les gens auxquels ils s'opposaient eux-mêmes à Dieu, donc ils voulaient les ramener pour eux-mêmes, ils voulaient les ramener à Dieu. Mais avec tellement d'autorité, si je puis dire, avec tellement de zèle, mais pour les autres, que ça ne pouvait pas porter de fruits. Et simplement, quand il arrive sur le mont Horeb, que devant Dieu, il s'en remet, il se dépouille complètement de lui-même. Et dépouillé de lui-même, vous connaissez le récit biblique, il y a un fort vent qui se manifeste. Et là, il est tellement avide dans son zèle, toujours, qu'il ne l'a quand même pas quitté, bien que tempéré. Il attend la manifestation de Dieu. Et Dieu ne s'est pas manifesté dans la tempête. Et de degré en degré, de manière de plus en plus subtile, de plus en plus fine, de plus en plus tranquille, de plus en plus hésicaste, enfin c'est une brise légère. Et Dieu était dans la brise légère. La brise légère, elle évoque évidemment l'Esprit Saint. Parce que vous comprenez que l'histoire, comme je vous la présente, l'histoire du prophète Élie, c'est notre histoire à tous. Comment les uns et les autres, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, je parle de la nature humaine, hein, je ne parle pas de jugement pour les uns pour les autres, mais comment on est souvent indulgent pour soi-même et exigeant pour les autres. Comment, soi-disant au nom de Dieu, et quelquefois réellement au nom de Dieu d'ailleurs, on voudrait obtenir tel résultat, tel de nos activités, telle réussite dans notre vie. Et en même temps, on est obligé d'avaler des couleuvres, on est obligé de connaître ces échecs, ces humiliations, quelquefois dues à nos propres fautes d'ailleurs. Donc on peut accuser personne, et encore moins Dieu que quiconque. Et finalement, quand on arrive, nous aussi, au sommet du Tabor, c'est pas complètement une faute d'ailleurs, de l'Horeb, et qu'on s'en remet à Dieu en toute humilité, à ce moment-là, c'est Dieu qui, à travers notre faiblesse, Dieu se manifeste. Comme l'Esprit Saint s'est manifesté sous forme de langue de feu à ses apôtres à la Pentecôte, de la même manière, l'Esprit Saint a soufflé sur le prophète Élie. Et là, il a changé. Il a gardé le même zèle, mais il a complètement changé. Comment on peut changer un zèle? C'est toujours du zèle, mais un zèle devenu miséricorde. Un zèle qui était simplement l'image du zèle de Dieu pour les hommes. Dieu est amour. L'épître de ce matin montrait comment Dieu nous pardonne à l'infini, si vous voulez, tellement il est bon, tellement il est miséricordieux. Ça veut dire qu'il veut, ça veut pas dire qu'il ne veut pas, qu'il ne veut pas le bien, mais le bien, il ne l'impose pas. C'est par son amour, par sa miséricorde, qu'il change notre cœur. Et ainsi a changé le prophète Élie. Il est resté la même personne, mais ce qui était dur en lui est devenu au contraire miséricorde, est devenu la transparence de l'action de Dieu à travers sa personne. Et c'est comme ça qu'il est parti, il est redescendu dans le pays d'Israël, et il a appelé le roi Akab, auquel il s'opposait jusqu'à présent, lequel a été complètement surpris de le voir venir, alors qu'il lui voulait la peau, de le voir arriver et se présenter lui-même. Et là, il lui dit, bah, écoute, regarde bien maintenant, on va demander au Seigneur de nous apporter la pluie. Et ça a été la pluie, c'est une transfiguration. La pluie ne peut pas ne pas évoquer pour nous le baptême. C'est à travers le baptême, ou à travers la pluie de la grâce de l'Esprit Saint. Tout ça, c'est conjoint, si vous voulez, que cette vie bienfaisante vient sur dans nos âmes stériles pour la rafraîchir et lui donner la vie. Cette pluie qu'Élie a fait venir sur le pays pour le salut du pays, cette pluie, c'est celle que nous attendons aussi par notre foi et par notre prière. Et dans notre propre conversion, nos péchés, pour reprendre l'épître de ce matin, nos péchés sont complètement pardonnés. Nous n'avons pas à espérer qu'ils soient pardonnés, mais ils sont complètement pardonnés. Mais il faut encore que nous ayons cette générosité, cette mansuétude, cette miséricorde qu'avait Élie pour les autres, de manière à ce que la pluie bienfaisante de l'Esprit Saint dans nos cœurs puisse effectivement changer nos âmes. Et de cela, nous ne pouvons avoir aucun doute. Simplement, maintenons le zèle, ou développons ou acquérions, essayons d'acquérir un zèle pour Dieu qui ne nous est pas toujours évident a priori, mais développons ce zèle, mais toujours dans la miséricorde, c'est dans le non-jugement de l'autre, dans la non-imposition de notre volonté à l'autre, dans une exigence personnelle de ne pas vouloir que l'autre sache, croit, fasse ou quelque chose, que ce que nous croyons être bon, mais que nous laissions une totale liberté à l'autre, y compris à Dieu d'ailleurs, certains, et c'est là où est notre foi, sûrs que nous sommes, que Dieu fait pour nous et pour tous, sans aucune exception, le maximum c'est-à-dire à l'infini de ce qu'il peut faire pour nous, de manière à ce que nous connaissions nous aussi cette illumination sur le mont, au rêve, quoi, d'une manière différente, évidemment. Voilà, je ne veux pas vous décevoir sur la personnalité du prophète Élie, mais alors que nous meurtons toujours renouvelés, et il y a de quoi. En même temps, il faudra voir aussi que c'était profondément un homme, et avec les limites qu'ont tous les hommes, et les femmes aussi, rassurez-vous. Et qu'il fallait aussi, et qu'il dépassait aussi par ce stade de purification progressive.